Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. Au Burundi, au moins 3 personnes ont été tuées et des dizaines blessées hier soir dans une série d'explosions dans la capitale économique Bujumbura. Dernière en date d'une série d'attaques dans le pays, ont indiqué police et médias. Ces explosions surviennent au lendemain de l'explosion meurtrière d'une grenade dans un bar de la capitale Gitega et de tirs de mortier revendiqués par le groupe rebelle Red Tabara sur l'aéroport de Bujumbura samedi soir. Au moins 2 grenades ont explosé sur un parking de bus dans le centre de Bujumbura lundi vers 19h heure locale, selon une source policière et des témoins. Une personne a été tuée et 29 blessées, certaines grièvement, a déclaré à l'AFP un policier qui a requis l'anonymat. La troisième explosion a visé un marché, tuant au moins 2 personnes et blessant plusieurs autres, a rapporté le journal Iwacu. Rwanda. Les États-Unis se disent préoccupés par la condamnation de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda. Michel Joseph nous donnera les détails. Au Cameroun, une quinzaine de soldats ont été tués dans 2 attaques en 5 jours. La semaine dernière, dans le nord-ouest, une des 2 régions anglophones en proie depuis 4 ans à un conflit meurtrier entre groupes séparatistes et forces de l'ordre, a annoncé ce lundi le ministère de la Défense. La ministre française des Armées, Florence Parly, a discuté hier à Bamako des informations faisant état d'une éventuelle coopération entre le Mali et le groupe russe Wagner. Nous y reviendrons avec Bagassi Koura. Le chef de la diplomatie européenne a averti hier qu'une implication de Wagner au Mali affecterait sérieusement les relations entre l'Union européenne et Bamako. Josep Borrell parlait en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre aujourd'hui à New York. Nous aurons en ligne Dili Diko sur cette ouverture. Le président tunisien, Kais Saïd, a annoncé hier qu'il nommerait un nouveau chef de gouvernement tout en gardant en place les mesures d'exception qu'il avait décrétées le 25 juillet pour s'arroger les pleins pouvoirs. Il a en outre annoncé dans un discours hier qu'il allait faire adopter une nouvelle loi électorale sans en dévoiler les contours. Les États-Unis ont condamné hier, le qualifiant de rhétorique haineuse, dangereuse et inacceptable, un récent discours d'un allié politique de premier plan du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. L'allié en question a comparé les rebelles de la région du Tigré en guerre au diable et estimé qu'ils devaient être les derniers de leur espèce. Les libéraux de Justin Trudeau sont en passe de remporter les législatives canadiennes, une demi-victoire toutefois pour le premier ministre sortant, qui n'est pas parvenu à redevenir majoritaire à l'issue d'une campagne durant laquelle il a été malmené. D'après les projections des médias canadiens lundi soir, les résultats préliminaires permettent d'affirmer que le Parti libéral obtiendrait autour de 155 sièges sous le seuil des 170 sièges permettant d'obtenir une majorité. Des photos montrant des gardes frontières à cheval en train de repousser des migrants haïtiens près de Del Rio, au Texas, suscitaient lundi une forte émotion aux États-Unis, où l'administration Biden a annoncé une enquête pour faire toute la lumière sur les faits. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est lui entretenu hier avec le premier ministre haïtien Ariel Henry de la coopération afin de rapatrier les migrants haïtiens, a indiqué le département d'État. Selon le chef des gardes-frontières, Raoul Ortiz, des patrouilles équestres ont été déployées dimanche près du fleuve Rio Grande, où des milliers de migrants, dont une majorité d'Haïtiens, campent depuis plusieurs jours dans l'espoir d'être admis aux États-Unis. Les États-Unis lèveront le 1er novembre pour les personnes vaccinées les restrictions en place depuis mars 2020 sur les voyages internationaux et dont le maintien agaçait nombre de leurs partenaires européens en tête. La suite de nos informations. Florence Parly, la ministre française des Armées, a affirmé hier au Mali la détermination de Paris à poursuivre son engagement malgré les tensions avec le gouvernement malien qui envisage une coopération avec Wagner, un groupe privé russe de sécurité. Le point avec Bagassi Koura.
Cette tournée entamée dimanche au Niger vise à exposer aux pays concernés la réorganisation par la France de son dispositif au Sahel. Depuis 8 ans, la France a fait le choix d'être aux côtés du Mali, de gagner mais aussi de souffrir avec lui, a déclaré Mme Parly après sa rencontre avec son homologue malien, le colonel Sadio Camara. Il est temps de faire évoluer notre dispositif, a-t-elle dit, en référence à l'évacuation programmée des bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou. Nous restons présents et venons de le prouver après avoir neutralisé Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, chef du groupe État islamique au Grand Sahara, a rappelé la ministre française. Nous avons besoin de nous assurer qu'il y a une volonté ici au Mali d'appuyer la CEDEAO pour faire aboutir ce processus de transition politique, a-t-elle souligné. La CEDEAO a prévenu jeudi que l'échéance de février était non négociable et exige des autorités maliennes d'ici à la fin du mois d'octobre un calendrier clair en vue des élections. Par ailleurs, la France et l'Allemagne préviennent qu'un recours à Wagner, la société privée russe, remettrait en cause leur engagement militaire. Bamako a rétorqué sèchement dimanche dernier qu'il ne permettrait à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quel partenaire il peut solliciter ou pas.
Après la condamnation hier à Kigali à 25 ans de prison de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, les États-Unis craignent que l'ancien hôtelier n'ait pas bénéficié d'un procès équitable, mais ils n'ont pas réclamé non plus sa libération. Le point avec Michel Joseph.
Les États-Unis sont préoccupés par la condamnation de Paul Rusesabagina, qui détient un permis de résidence permanente aux États-Unis, a indiqué Ned Price, porte-parole du département d'État. Il ajoute dans son communiqué que l'absence de garantie d'un procès juste remet en cause l'équité du verdict. Nous sommes préoccupés par les objections soulevées par M. Rusesabagina sur l'absence d'accès confidentiel et sans entrave à ses avocats et par le fait qu'il n'a initialement eu accès à aucune défense, a-t-il poursuivi. Washington appelle le gouvernement de Kigali à se pencher sur ses lacunes et mettre en place des mesures de protection pour éviter des cas similaires à l'avenir, a conclu M. Price. L'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines a été reconnu coupable d'avoir fondé et d'appartenir au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Il a été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. La Belgique, dont Paul Rusesabagina est ressortissant et où il vivait en exil, a estimé qu'il n'a pas bénéficié d'un procès juste et équitable. Mais Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, a estimé sur Twitter que justice a été rendue et que les Rwandais se sentent maintenant plus en sécurité.
À New York, l'Assemblée générale des Nations unies commence mardi. C'est une première depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a un peu plus d'un an et demi. Des dirigeants du monde entier se retrouvent pour les assemblées générales. Les précisions avec Dili Diko.
Le thème de cette 76e session de l'Assemblée générale est la résilience pour reconstruire après le Covid-19, favoriser le développement durable et répondre aux besoins de la planète. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette édition est l'opportunité de revitaliser l'organisation mondiale et réaffirmer ses objectifs. Cette année, ce sera un mélange de discours en personne de chefs d'État venus en délégation très restreinte et des vidéos d'autres présidents qui n'ont pas fait le déplacement à cause du Covid-19. Le président Joe Biden sera à New York pour parler de la nécessité de mettre fin à la pandémie, du changement climatique et défendre la pérennité du droit et de la démocratie dans le monde. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, doit aussi prendre la parole dans la matinée. Hier, il a rencontré le patron de l'ONU, Antonio Guterres, pour discuter des efforts pour instaurer la stabilité, la paix et la prospérité en RDC, surtout dans les provinces de l'Est, avec le soutien des Nations Unies. Dilidico, New York, VOA Afrique.
La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
Accident en Guinée entre deux trains de transport de bauxite appartenant au groupe russe Rusal. Un délégué syndical de Rusal, Jean-Tamba Kantabadouno, a fait état de 3 locomotives et de 6 wagons chargés de bauxite qui ont été renversés sans être en mesure d'évaluer les dégâts matériels très importants. Le coût de l'aluminium a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 2008. Pénurie de passeports au Congo-Brazzaville, une situation qui dure depuis plusieurs semaines maintenant, source de nombreux désagréments pour les opérateurs économiques et les étudiants inscrits à l'étranger. Les autorités congolaises ont expliqué la rareté du précieux document de voyage par une trop grande dépendance à un prestataire de services extérieurs. Ici aux États-Unis, l'administration Biden a mis en garde lundi contre le risque d'une crise financière historique si aucun accord n'est trouvé avec l'opposition républicaine sur le plafond de la dette, ce qui empêcherait les États-Unis d'honorer leurs engagements financiers dès la mi-octobre. Ne pas relever le plafond de la dette provoquerait, prévient Janet Yellen, la ministre américaine des Finances, de graves dommages à l'économie américaine et par ricochet à l'économie mondiale qui essaie de se relever des effets de la pandémie de COVID-19.
Merci Jean-Roger. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite hier des matchs de l'Afro-basket féminin qui se déroule à Yaoundé, au Cameroun, le pays hôte a battu le Cap-Vert 71 à 40. Les Nigérianes tenantes du titre enchaînent avec une deuxième victoire. Cette fois-ci, face à l'Angola battu 85-65, la Côte d'Ivoire s'est inclinée devant le Mali vainqueur 76-63. C'est la seconde victoire pour les Maliennes qui avaient battu les Tunisiennes d'entrée. Deuxième victoire également pour le Sénégal 76-63 face à l'Égypte après son succès devant la Guinée. Football, la FIFA compte organiser un sommet en ligne le 30 septembre prochain pour consulter ses fédérations membres sur la réforme du calendrier international. L'annonce a été faite hier par l'instance mondiale du ballon rond. Le débat autour du calendrier international et d'une Coupe du Monde tous les deux ans a été relancé ces derniers jours dans le quotidien français L'Équipe par l'ex-entraîneur Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA. Celui-ci préconise une compétition de sélection chaque année en alternant mondial et compétition continentale comme l'Euro, la CAN ou la Copa América, tout en regroupant les qualifications sur le seul mois d'octobre ou en octobre et mars. L'UEFA, la puissante Confédération européenne de football, s'y est opposée, assurant qu'un mondial biennal, au lieu d'être organisé tous les 4 ans, diluerait le joyau du football mondial, selon son président Alexander Seffrin. La CONMEBOL sud-américaine a aussi fait part de son refus, affirmant que ce projet n'a aucune justification sportive. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis que des décisions seraient prises d'ici la fin de l'année. Des nouvelles de la Serie A, Naples prend seul la tête du championnat d'Italie grâce à sa large victoire hier sur la pelouse de l'Udinese 4-0 en clôture de la 4e journée. Avec 12 points, le Napoli fait carton plein et devance de 2 longueurs l'Inter 2e et l'AC Milan 3e. La crise est proche en Catalogne une semaine après la gifle face au Bayern Munich 3-0 en Ligue des Champions. Le FC Barcelone s'est fait peur hier en clôture de la 5e journée de Liga en décrochant un nul inespéré 1-1 au Camp Nou contre Grenade. En Turquie, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football, l'Allemand Stefan Kuntz, arrivé hier à Istanbul pour un contrat de 3 ans, a salué un retour à la maison. Kuntz, 58 ans, s'est souvenu avec émotion de son passage pour une saison au Besiktas en 1995-1996. Il succède à Senol Gunes, remercié après une série de défaites dont un 6-1 face aux Pays-Bas en match de qualification pour le Mondial 2022, l'un des plus lourds revers de ces 30 dernières années. La dernière participation turque au Mondial remonte à 2002. L'équipe nationale avait alors terminé 3e de la compétition avant d'en rester privée pour les 2 décennies suivantes.
Merci, Yacoub. d'aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les journalistes demandent aux militaires de leur garantir de meilleures conditions de travail. Le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, a rencontré ce lundi à Conakry les représentants de la presse nationale guinéenne dans le cadre des concertations nationales. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Désormais, les journalistes guinéens munis de leur carte professionnelle peuvent continuer à travailler au-delà de 22 heures, heure du début du couvre-feu. Aboubakar Camara, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée.
Il est quand même très rare de voir que dans le feu de l'action comme ça, qu'on puisse répondre aux préoccupations d'une entité. La carte de presse professionnelle 2021-2022, pour chaque journaliste détenteur de cette carte, peut travailler jusqu'à l'heure voulue.
Les patrons des organes de presse ont souhaité la construction de la première maison de la presse. Ils ont sollicité des nouvelles autorités de Conakry, l'accès à l'information à tous les niveaux.
La construction d'une maison de la presse a été évoquée, mais aussi le traitement salarial des journalistes. L'intervention du président de la junte nous a laissé croire qu'il y a une très bonne réflexion qui pourrait s'apparenter à une oreille attentive aux préoccupations de la presse.
Les journalistes peuvent aussi dénoncer la corruption en Guinée. L'assurance leur a été donnée par le colonel Mamadi Doumbouya, Amaditam Camara, président de l'association guinéenne de la presse en ligne sans réjouir.
Ils ont demandé qu'on puisse continuer à dénoncer les cas de corruption. Ça, c'est la demande même du président, de continuer à dénoncer les cas de corruption, ce qui est un signe d'ouverture et de liberté.
Certains journalistes ont estimé que toutes les vérités n'ont pas été dites au cours de cette rencontre. Garay Girassi, journaliste reporter.
Quand on s'assoit devant le colonel Mamadi Doumbouya, on devait pouvoir être à mesure de parler de leurs conditions de vie qui n'est pas du tout honorable. Parce qu'on sait que dans les rédactions, il y a des journalistes qui travaillent moyennant que dalle. Il y a d'autres qui travaillent, qui sont très mal payés en deçà du SMIG. Et ceux qui sont payés, le plus souvent, ne sont pas payés à temps. Et également, le plus souvent, quand un journaliste reporter tombe malade, puisqu'il n'est pas immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut lancer des SOS pour pouvoir le soigner.
Les concertations se poursuivent en Guinée entre les nouvelles autorités militaires et toutes les composantes de la nation. Objectif, définir les contours de la transition. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique en direct de Washington.
Suite à des informations persistantes sur un éventuel accord entre le Mali et la compagnie de sécurité privée russe Wagner, le ministre des Affaires étrangères du Niger a fustigé les autorités de la transition malienne. En réponse, le Conseil national de la transition du Mali s'interroge dans un communiqué, je cite, sur les vrais motifs de ce pays ami et frère. Modibo Dambélé a joint à Bamako un membre du Conseil national de la transition, Nouhoum Sarr.
Le ministre des Affaires étrangères, il a porté atteinte à la souveraineté de notre pays en voulant s'ériger en donnant des leçons. Donc nous estimons qu'il n'est pas dans son rôle, qu'il a outrepassé ses fonctions, il a violé les rapports d'amitié qui existent entre nos deux peuples qui ne remontent pas aujourd'hui. Il a porté atteinte à l'amitié entre le Mali et le Niger qui remonte à Amani Diori, à Sérine Koutché et autres. Donc nous condamnons ces propos, nous sommes scandalisés et indignés et nous exigeons que ce monsieur ne parle plus jamais de notre pays en des termes aussi condescendants comme il l'a fait. Mais nous sommes très heureux de la réaction du peuple nigérien. Plusieurs personnalités au Niger ont fait des sorties pour le mettre dans ses petits souliers et nous attendons qu'il présente des excuses publiques au peuple malien. En tout cas, il ne reflète pas la pensée du peuple nigérien.
Monsieur Sarr, des informations circulant sur la toile font état de la signature d'un éventuel accord de coopération militaire entre le Mali et la compagnie privée de sécurité russe Wagner. Qu'en est-il exactement?
En tout cas, la réaction de l'ex-puissance coloniale est une réaction disproportionnée, inacceptable. Nous sommes un pays souverain et nous sommes libres de signer des conventions pour que ces conventions soient licites avec n'importe quel pays. Donc, ils n'ont pas de leçon à nous donner. Lorsque le gouvernement français signe des conventions avec la société Amarante Internationale, qui est une société française de défense, pour opérer dans des pays étrangers comme le clan des Sahel, est-ce que nous en offusquons? Non. En tout cas, nous sommes un pays indépendant et souverain. Et cette souveraineté sera totalement garantie. Cette souveraineté sera jalousement défendu. Je n'ai vu aucun contrat, il n'y a rien d'officiel. Je ne souhaite pas m'étendre sur des sujets alimentés par la rumeur.
Le Premier ministre du Mali, en la personne de Dr Choguel Kokala Maïga, estime dans une de ses sorties que les élections ne sont pas sa priorité. Est-ce que cela signifierait que le gouvernement envisage de proroger les délais impartis à la transition?
Vous savez, la prorogation de la transition, ce n'est pas par un discours, ce n'est pas par une interview qu'on le fait. La prorogation obéit à des règles. C'est une charte qui a été adoptée par le peuple malien. La prolongation consiste donc à modifier cette charte. Ensuite, il y a le plan d'action du gouvernement adopté par la représentation nationale. Et ce plan d'action est clair. Les élections se tiendront aux dates indiquées. Jusqu'à présent, il n'y a pas de modification. Je ne vois pas pourquoi on est dans les préjugés, on est dans la supputation. En tout cas, il est clair que notre pays déploiera son agenda à lui, l'agenda dans nos intérêts, dans l'intérêt de notre qui est aujourd'hui de libérer notre territoire, qui est de permettre le retour des réfugiés et d'enclencher un processus de normalisation, de retour à l'ordre constitutionnel.
Nohum Sarr, membre du Conseil national de la transition du Mali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, une start-up transforme des jerrycans en plastique en ordinateur utilisant des composants recyclés et les vend au public à faible coût. Anne Zouanke a visité la start-up Blow Lab à Cotonou. Son reportage est relaté ici par Nathalie Barge.
Arthur Dadjou est étudiant à Cotonou, au Bénin, où innovation et recyclage se rencontrent. Depuis un an, il utilise un ordinateur qu'il a lui-même fabriqué. Le disque dur est conçu à partir d'un jerrycan en plastique, de matériaux recyclés et de pièces d'ordinateur anciens ou cassés. Les habitants l'appellent Jerry d'après le nom des conteneurs. Avec un logiciel libre de droit installé, il est comme neuf et surtout moins cher.
On peut trouver une unité centrale, un ordinateur bureautique au complet de 350 000. Mais ici, avec les composants qu'on a achetés, on peut dépenser environ 100, 150 000 pour l'avoir.
Blow Lab Bénin, laboratoire d'innovation numérique, vend dans les domaines de l'éducation et du numérique, fabrique ses ordinateurs Jerry. La start-up organise régulièrement des ateliers pour apprendre aux gens à fabriquer gratuitement leur propre ordinateur. Médard Agbayazon, fondateur de l'entreprise, dit qu'en plus de faciliter l'accès à des produits rentables, les formateurs permettent de développer les compétences en innovation.
Deuxième objectif, c'est justement celui de la stimulation de la créativité chez les enfants. Parce que quand ils apprennent en fait à faire ces jerry-là, c'est que ils apprennent à pouvoir solutionner les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur environnement à travers du matériel ou des moyens qu'ils ont à disposition.
Les experts estiment que l'ordinateur est un outil de travail indispensable et que des initiatives comme celle de Blow Lab doivent être encouragées. Ali Shaddai est chef de projet à OpenSea, une compagnie axée sur la transformation numérique des entreprises.
Un ordinateur, c'est une porte sur un monde d'opportunités. Donc forcément, le démocratiser, le rendre accessible au plus grand nombre, c'est profitable pour ces gens-là, pour la société en général. Donc forcément, on ne peut voir que quelque chose de positif.
La formation est gratuite, mais les participants doivent trouver les composants pour fabriquer eux-mêmes leur propre ordinateur. Depuis 2015, des centaines de personnes ont participé aux sessions de formation. Blow Lab Bénin s'emploie maintenant à rendre les ordinateurs Jerry disponibles pour les écoles en zone reculée afin de combler le fossé numérique dans le pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
New York accueille cette semaine l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'un des premiers grands rassemblements de l'ONU depuis le début de la pandémie de COVID-19. Plus de 100 dirigeants du monde sont attendus à ce rendez-vous. Margaret Béchier, correspondante de la VOA aux Nations Unies fait le point. Le récit est de Mohamedou Humfa.
Pandémie de Covid oblige, c'est une assemblée restreinte qui s'ouvre mardi. Les dirigeants mondiaux ont la possibilité d'y assister physiquement, mais avec une petite délégation, ou d'envoyer un message vidéo. Quelques 125 dirigeants sont attendus à New York, où ils aborderont des problématiques urgentes. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Our world is heading towards a new abnormal, more chaotic.
Notre monde va vers une direction anormale, plus chaotique, plus précaire, plus dangereuse pour tout le monde.
La semaine va commencer par des discussions sur le climat. Monsieur Guterres et le Premier ministre britannique Boris Johnson vont rencontrer quelques dizaines d'autres dirigeants. Leur objectif est d'encourager des actions plus ambitieuses pour ralentir le réchauffement climatique et le financement des efforts d'adaptation et d'atténuation avant une conférence cruciale sur le climat prévue en Écosse dans 6 semaines. Antonio Guterres.
We really are out of time. We must act now.
Nous manquons de temps. Agissons maintenant pour éviter d'autres dommages irréversibles.
L'autre priorité est de mettre fin à la pandémie de COVID-19 grâce à la vaccination. L'OMS a fixé à mi-2022 l'échéance pour vacciner 70% de la population mondiale, mais les pays les plus pauvres ne sont pas en voie d'atteindre cet objectif. Mercredi, le président américain Joe Biden va convoquer une réunion virtuelle sur les moyens de freiner la propagation du virus. Linda Thomas-Greenfield, représentante américaine à l'ONU.
Le président Biden s'est engagé à diriger de concert avec nos alliés à travers le monde les efforts pour arrêter la pandémie de COVID-19. Nous construisons une coalition de gouvernements, d'entreprises, d'institutions internationales et de la société civile pour accélérer la production et l'accès aux vaccins, aux traitements et renforcer les systèmes de santé dans le monde.
Outre ces deux sujets brûlants, il y a aussi une dernière crise géopolitique, l'Afghanistan. Richard Gowan, directeur à l'ONU de l'ONG International Crisis Group.
L'Afghanistan représente un énorme défi humanitaire pour les Nations Unies et ce seront ces agences qui seront chargées de soutenir les Afghans pendant la période de famine et de chaos politique.
Les ministres du G20 se réunissent mercredi pour discuter de l'Afghanistan. La prise du pouvoir par les talibans devrait figurer en bonne place dans les discours des dirigeants occidentaux lors de l'Assemblée générale, notamment sur la nécessité de soutenir les progrès réalisés en matière des droits des femmes et des filles. Richard Gowan d'International Crisis Group.
L'Assemblée générale ne peut pas faire grand-chose pour forcer les talibans à protéger ses droits.
À partir de mardi, les dirigeants vont s'adresser à l'Assemblée générale. L'une des déclarations les plus attendues sera celle du président Joe Biden, qui va s'adresser pour la première fois à la tribune des Nations Unies. Avec seulement une semaine pour débattre d'autant de sujets urgents, les dirigeants auront peu de temps pour profiter de New York, qui a commencé à rouvrir ses musées, ses restaurants et ses théâtres.
Avec vous, Washington Forum se déplace à New York, qui sera la capitale diplomatique mondiale cette semaine à l'occasion de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants de 193 pays prendront la parole soit devant la tribune de l'Assemblée générale, soit par visioconférence pour évoquer les grands sujets du moment. Pour la deuxième année consécutive, le Covid impactera les débats et le déroulement de l'événement. Pour l'Afrique, il sera question d'accès aux vaccins, de résolution des conflits qui minent le continent, d'environnement et de développement. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.